Popopien, Popopien et tous les autres aussi, bonjour, une voix s'est éteinte. Certes, dans Popopop, lorsque nous avons à faire ce genre d'annonce, c'est généralement pour parler d'un chanteur, et plus particulièrement d'un chanteur ayant brillé dans la galaxie de la pop culture. Et pourtant, aujourd'hui, alors que la voix qui vient de s'éteindre donc est celle de Jacques Chirac, ce qui nous revient en mémoire à nous tous qui observons le monde par le prisme de la dite pop culture, ce sont les multiples incursions, la plupart involontaires, mais pas toutes, de Jacques Chirac dans la culture populaire dans tous les sens du terme. Jacques Chirac a bien sûr été guignolisé, et d'ailleurs, on peut voir dans sa disparition le véritable rideau final de la cultissime séquence, mais il s'est aussi promené dans tous les registres. C'est un chef d'État pas comme les autres, qui disparaît aujourd'hui, sans doute un des rares qui donnait cette impression, vérifiée mille fois, que l'homme continuait à exister sous la carapace de l'homme politique. On laissera aux spécialistes de loin, de faire le bilan des années Chirac et de la trace qu'elles laisseront dans l'histoire de la Ve République, mais pour l'heure, je vous propose une petite visite guidée des pérégrinations du personnage Chirac dans les méandres de la pop culture.
France Inter. Popopop. Antoine de Caunes.
Mes chers compatriotes, ce soir, c'est avec au cœur l'amour et la fierté de la France que je me présente devant vous. La France, je l'aime passionnément. Servir la France, c'est l'engagement de toute ma vie.
Et on commence donc avec Jacques Chirac, ici remixé par le collectif de DJ Bon Entendeur. À mes côtés aujourd'hui, ma Bernadette à moi, en tous les cas elles ont le même sac à main, Charline Roux. Bonjour Charline.
Bonjour Antoine.
Avec nous tout à l'heure dans Popopop, la metteuse en scène Masha Makeyev. Mais avant cela, une petite visite guidée donc du personnage Chirac dans les méandres de la pop culture. Et nous allons tenter d'être plus réactifs qu'Antenne 2.
Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac.
Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil?
Oui, on va faire chauffer l'appareil d'Inter, promis, monsieur le Président. Kit Harington, alias Jon Snow de la série Game of Thrones, nous avait dit ici, la pop culture, c'est ce qui est référencé dans les Simpsons. Eh bien, Jacques Chirac était évidemment dans les Simpsons. Mais pas seulement. Jacques Chirac, c'est également Caius Saugrenus, un Romain caricaturé dans Obélix et compagnie, de René Cossini et Albert Uderzo, un personnage de jeu vidéo, la figure du French swag sur les t-shirts, affichant sa photo en train de sauter au-dessus d'un portique de métro, ou en allumant la cigarette de Simone Veil, à l'époque ministre de la Santé. Bref, Jacques Chirac a marqué la pop culture. Une chanson pop en guise de clip de campagne en 1981 pour un homme qui avait déjà une certaine longueur d'avance sur le langage politique à l'ancienne.
Nous ne pensons pas que l'Europe est une sorte de poudre de perlimpinpin.
Toutes les punchlines chiraciennes ont été compilées par des geeks de la pop culture pour faire comme avec Jean-Pierre Mocky, non pas une boîte à Mocky, mais une boîte à Chirac.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Je dis, c'est loin, mais c'est beau. Hein.
D'ailleurs, quand je vais au restaurant, on me demande même pas ce que je veux boire, on m'amène tout de suite une bouteille de bière.
Toutes ces répliques et bien d'autres sont à retrouver sur le site chirac.machine.audio. Un punchliner donc, ou en tout cas un homme au ton particulier qui a inspiré nombre de stand-uppers à l'image de Kian Kojandi qui en parlait au micro de Click.
Quand t'es acteur, tu fais des ruptures du genre « Putain, j'en ai marre ». Mais c'est génial, tu vois.
What do you want me to go back to my plane and go back to France?
Bonjour. Homme politique parfait, genre « What do you want me to... Bonjour ». Et c'est incroyable à voir. Cette rupture, elle est folle.
Bonjour. Toutes les icônes de la pop culture sont évidemment liées à la musique. La preuve avec la planète pop chiracienne.
Je voudrais remercier Madonna.
Solo de Jacques Chirac.
Parce que c'est vraiment chic, c'est vraiment sympa de sa part.
J'aimerais dédier cette chanson à Jacques Chirac.
Je serai le président de tous les Français. Je serai le président de tous les Français.
Nous avons tous en nous quelque chose de Jacques Chirac.
Nous avons tous en nous quelque chose de Jacques Chirac et nous écouterons tout à l'heure la chanson dédiée par Johnny Hallyday à Jacques Chirac. Cette petite visite guidée dans la pop culture du personnage Chirac ne peut pas s'arrêter devant la chaîne cryptée pour évoquer son double en latex.
Putain, j'ai une patate en ce moment, moi. Je l'ai bouffé tous, j'ai la niaque. Inouï, mangez des pommes.
Oh, encore super menteur.
Reconnaissez?
Eh oui.
Pas de fil, pas de mulot, ça marche à pile.
Après ordinateur sophistiqué, sans mulot et à pile, donc les jeux vidéo, les t-shirts, la télévision, le stand-up et la musique, il y a évidemment le cinéma qui lui a rendu hommage.
Je vais mettre Villepin à l'intérieur, c'est un puceau politique, on verra s'il en a dans le pantalon.
Et Nicolas ?
Il va aller aux finances.
Il n'acceptera jamais de quitter Beauvau.
Je te parie une caisse de Corona.
Alors là, c'est une nouveauté, un taxi. Furtif.
Je vous laisse devant la tribune et après je file.
Monsieur Chirac est demandé à la réception. Monsieur Chirac.
C'est pour moi ?
Non mais tu t'appelles Chirac, toi ?
Ben oui, Chirac. Pourquoi ?
Vous avez vraiment perdu votre sens politique. Il faut le féliciter, bien sûr. Et vous ajouterez mes compliments personnels.
Et me perds avec, oui. Et sur un plateau.
Et on aura reconnu au passage des extraits de La Conquête de Taxi et de Camping. Alors même si nous avons tous en tête l'image du président Chirac qui énumère approximativement les noms des joueurs de l'équipe de France de foot en 98, Chirac était en quelque sorte le 12e homme de cette équipe championne du monde.
Je voudrais saluer au nom du gouvernement, en mon nom, l'équipe de France.
Et voilà quelques exemples vite assemblés qui nous prouvent, s'il en était besoin, que Jacques Chirac était bien une icône de la pop culture. Alors après Pop Pop Pop, aujourd'hui, retrouvez une programmation spéciale sur France Inter avec à 17h l'émission Radioscopie datant de février 77 avec Jacques Chirac et à partir de 18h un numéro spécial du téléphone sonne. Nous avons tous en nous quelque chose de Jacques Chirac, nous disait Johnny Hallyday, en lui dédiant une chanson. Cette chanson c'était « On a tous en nous quelque chose de Tennessee » et on l'écoute tout de suite.
À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre et légère.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie. Ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie, ce rêve en nous c'était son cri à lui, quelque chose de Tennessee. Comme une étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparut Tennessee. Certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Oh, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee. Quelque chose de Tennessee.
Tennessee, oui, on a tous en nous quelque chose de Tennessee. Vous écoutez Tennessee, vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Petite corona. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Masha Makeyev. Bonjour Masha.
Bonjour.
Elle n'est ni chiracienne, ni anti-chiracienne d'ailleurs, puisque depuis toujours, et la pièce dont elle vient nous parler aujourd'hui le prouve une fois de plus, elle s'intéresse bien davantage aux féeries qu'à la réalité pragmatique. Charline, je ne vais pas faire votre boulot à votre place. Présentez-nous notre invitée avec son pop portrait, s'il vous plaît. Alors oui, votre pop portrait, Masha, c'est votre portrait, mais...
À base de pop, pop, pop.
Et c'est signé Charline.
C'est bon ?
Oui.
Bon, on y va. Aujourd'hui, une invitée dont on se dit, en énumérant ses multiples activités, que si on devait passer de l'autre côté du miroir, dans un endroit où, bon, bah, mettons, l'art n'existerait pas, elle serait condamnée à l'oisiveté. Fort heureusement, on est du côté de la vitre qui permet à notre invitée d'exercer ses talents de metteuse en scène, de plasticienne, de costumière, d'auteur, de scénographe, de directrice de théâtre, ouais, rien que ça. Il faut dire qu'elle ne manque pas de fantaisie, hein, il en faut, pour s'attaquer en texte, en musique et en costume à Molière, à Labiche, à Beckett, à Prokofiev, à Mozart, à Offenbach. De la fantaisie, il en faut aussi, et en grande quantité, pour des créations originales, telles que Lapin Chasseur, Les Frères Zénith ou encore C'est Magnifique. Et pour une fois, c'est le nom de la pièce et un avis. Apprenez donc aujourd'hui qu'entre Les Deschiens et Alice au Pays des Merveilles, il y a des ponts, même pas traversés par un lapin, mais qu'on va franchir avec notre invité, qui elle n'est même pas en retard.
C'est amusant quand même, Masha. Mm-hmm. J'entends ça, mais c'est amusant qu'une femme discrète et réservée comme vous se retrouve à la tête d'un théâtre qui s'appelle La Criée.
Oui, c'est surprenant, mais...
J'ai appris à
prendre la parole et à parler, et je me rappelle tout de suite, quand vous me dites ça, d'Agnès Varda venant à La Criée, nous installant tous, toutes les équipes devant la façade, se couchant carrément dans la rue, et faisant la photo en nous demandant de crier. Mmh. Et ça, c'est une image très forte aussi, elle aussi toute discrète et toute, je l'aimais bien, je l'aimais beaucoup, très furtif comme ça. Et...
Bon, donc vous avez appris à crier, Masha. Et Masha, vous êtes pop, la preuve avec votre popliste. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur Triste Tropique, écrit par Claude Lévi-Strauss en 55. Charline, pourquoi sont-elles si tristes, ces tropiques? Et si c'est le cas, où irons-nous à Noël?
Oh ben en Angleterre, comme d'habitude, enfin si le Brexit nous le permet. Le livre est un voyage philosophique, celui d'un explorateur devenu ethnologue. En 1930, il est jeune agrégé de philosophie et commence à enseigner dans un lycée, mais il s'ennuie. Il a alors l'occasion de participer à un séjour au Brésil afin d'y étudier les populations amérindiennes.
Merci. Masha, auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît.
Le monde a commencé sans l'homme et il s'achèvera sans lui. Les institutions, les mœurs, les coutumes que j'aurais passé ma vie à inventorier et à comprendre sont une efflorescence passagère d'une création par rapport à laquelle elles ne possèdent aucun sens, sinon peut-être celui de permettre à l'humanité d'y jouer son rôle.
Mmh, voilà un texte d'une brûlante actualité. Pourquoi cette tristesse tropicale vous plaît-elle tant?
D'abord, c'est un livre que j'ai multiplié, je l'ai un peu partout. J'ai plusieurs exemplaires et quand je l'ai découvert, j'ai aimé la mélancolie d'un scientifique et le lien entre la littérature et le regard sur le monde. Et j'ai profondément aimé cet homme parce que ce qu'il écrivait du monde était avant toute chose poétique et en même temps il m'informait de tant de choses. Et puis ça a été fondateur, après tout, ces peuples dits premiers, ces civilisations qui ne nous ressemblent pas et qui résistent à tout, parce qu'elles, je pense qu'elles resteront alors que nous aurons disparu, ont vraiment beaucoup à nous apporter. Ce qui fait le lien avec le Quai Branly, le musée du Quai Branly, après tout, l'actualité est étonnante. Mmh.
Pour retrouver un petit peu de joie de vivre, pensez-vous, comme Claude Lévi-Strauss, que l'homme, et vous le disiez à l'instant en le lisant, n'est qu'un accident provisoire du monde? Et si oui, est-ce que vous auriez ma taille en 32, 30
34, un peu pris, pas trop.
Bon. Vous n'êtes vraiment pas obligé de répondre, Masha.
Je ne répondrai pas.
Masha Makeyev, pour le film, vous avez choisi Andriy Rublev. C'est un film réalisé par Andriy Tarkovsky en 66. Mmh. Alors, Charline, je vous le dis comme je le pense, il y a là réuni tous les sujets qui vous passionnent sur cette terre, les icônes, la fonte des cloches, le Moyen-Âge russe. Qu'en dire de plus?
Enfin, que le film raconte le périple dans la Russie moyenâgeuse de ce jeune peintre d'icônes tout juste sorti du monastère.
Ok, petit extrait, peut-être.
Volontiers.
Lichou. Légitime. Oh, Tribunal. Lisieux. Archive.
Ritchou, dites-moi si je me trompe, mais ça veut dire je vole, non?
Oui,
ça,
je crois que c'est les premiers plans. C'est un homme qui réussit, à fabriquer une machine. Et puis du coup, il va changer l'histoire de l'art. Parce que tout d'un coup, on va voir le monde d'en haut. Mm-hmm. Et en fait, d'en haut, comme Dieu. Comme Dieu est censé le voir, et désormais les peintres d'icônes vont voir autre chose. Mais évidemment, c'est un film qui est d'un lyrisme incroyable et qui dit à la fois la foi et la violence, violence aussi, la violence de la vie. Oui, on construit par exemple un palais et on crève les yeux des architectes et des artistes qui l'ont fabriqué pour que justement il ne puisse pas y en avoir un deuxième. Ouais. C'est un film extrêmement inspiré quand on pense qu'il a fait ça pendant le soviétisme. Ouais. C'est une telle liberté, ce Tarkovsky, quel poète immense.
Et un film absolument hypnotique, hypnotisant. Je l'ai vu trois fois de suite, la première fois que je l'ai découvert. C'était il y a bien longtemps, mais c'est un pur chef-d'œuvre.
Oui.
Je vous recommande, Charline.
Je le note,
Antoine.
Pas
comme ça.
Je bois vos paroles, comme d'habitude.
Je sais. Insatiable. Macha Makayev pour la série Direction la ville imaginaire de Twin Peaks, avec la série créée par David Lynch et diffusée entre 90 et 91. Charline, je vous l'apprends, hein. Twin Peaks, ça veut dire les pics jumeaux.
Ah bon ?
Oui, maintenant, de quoi ça parle ? Ça, c'est une autre question.
Cette question, c'est qui a tué Laura Palmer retrouvée morte, nue, au bord d'un lac, enveloppée dans du plastique? L'agent spécial du FBI, Dale Cooper, envoyé sur place, est là pour y répondre.
Qui a tué Laura Palmer?
Ma bûche a vu quelque chose ce soir-là.
Il y a de fortes chances pour que l'auteur de ces crimes se trouve dans cette ville. C'est peut-être même quelqu'un que vous connaissez. Je vais avoir besoin de réponses précises. À mon avis, les gâteaux viennent ici pour mourir.
On aura bien sûr reconnu la version française. Vous êtes, lynchienne, Macha
Makayev? Oui, c'est pour ça que j'ai regardé Twin Peaks, mais je suis incapable de regarder une série. D'abord, une saison, etc. C'est trop long. Donc, j'ai pris des morceaux, des fragments de Twin Peaks pour m'en faire un film, mais je suis incapable de m'attacher au système de série. Mm-hmm. Je ne sais pas, c'est inscrit en moi la durée d'un film. Mm-hmm. Donc, voilà, je suis une très mauvaise cliente pour ça, mais comme il fallait choisir une série, j'ai pris celle-là à cause de Lynch. Ouais. Et c'est vrai que j'ai regardé des fragments, oui, bien sûr, mais je n'ai pas la rythmique de la série, pas du tout.
Vous êtes lynchienne, iriez-vous jusqu'à dire que vous êtes une lynchienne de garde?
Pourquoi pas? Oui, moi je suis pour du côté du rêve et plus que jamais aujourd'hui je défendrai l'absolue liberté de basculer dans la fiction, même dans une journée, même au cours d'une conversation comme ça. Oui.
Bien, Macha Makayev, terminons cette pop-liste avec votre chanson culte et cette chanson, c'est celle-ci. All I hear is the sound of rain falling. Tears go by. As Tears Go By des Rolling Stones, ça veut dire que vous êtes plutôt dans la team José Garcia plus Stones que Beatles.
Oui, moi cette chanson, c'est, je pense que c'est probablement la rencontre des livres de Lewis Carroll et de cette chanson. Je crois que tout de suite ça a révélé ça et j'ai lu Lewis Carroll avec cette musique dans la tête et ce regard de l'enfant, c'est sur l'enfant et au regard à hauteur d'enfant à cause probablement de cette chanson que je dédie très volontiers à mes acteurs de Lewis versus Alice qui sont magnifiques. Il y a chez ce très jeune Mick Jagger quelque chose d'absolument étonnant. On pense tout de suite au temps d'après, qu'est-ce qu'il va devenir, et voilà ce qu'il est devenu, c'est immense. Et puis cette langue anglaise sublime, enfin Voilà.
Bien. C'est alors, je résume ma chat. Triste Tropique, Andrei Rublev, Twin Peaks et les Stones. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça.
Qui a tué Laura Palmer?
All I hear is the sound.
Les yeux.
Of rain falling on the ground.
Je vais avoir besoin de réponses précises.
I sit and watch as tears go by.
Les institutions, les mœurs, les coutumes sont une efflorescence passagère d'une création par rapport à laquelle elles ne possèdent aucun sens.
À mon avis, les gâteaux viennent ici pour mourir.
Bravo. Makaïev, ça vaut combien ce petit samovar de pop culture?
Non, c'est magnifique parce que j'ai l'impression que c'est très carolien en fait.
Absolument.
L'absence de sens, mmh. L'inversion des choses, l'énigme à laquelle on ne répond pas, la rêverie qui fait voler, mmh. Enfin, la absolue liberté d'être mmh. au-dessus de la réalité. Ouais. Et de la regarder différemment.
C'était un remix signé Ghislain Fontanus, qui est un peu notre petite Alice à nous.
Et qui est de l'autre côté du miroir.
Et de l'autre côté du miroir.
Du studio.
Et qui va y rester. Alors, la pop, la culture et la pop culture, on en parle dans la suite de Pop Pop Pop, juste après le nouveau Pixies, Catfish Kate. Écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Nous allons parler aujourd'hui...
Pas la vôtre.
...de Lewis versus Alice, la pièce de mise en scène par notre invité Macha Makaïev. Mais Macha, avant de parler de cette pièce, d'abord, un passage obligé.
pour vous, c'est quoi la pop culture, Masha Mokeyev?
C'est un continent de liberté, la pop culture, et c'est, c'est une rêverie. Mm-hmm. C'est une rêverie illimitée, et c'est aussi la possibilité d'être excentrique.
Très bien, ça nous va.
C'est parfait.
Ça vous va? Bon. Lewis versus Alice, Lewis contre Alice, c'est donc le titre du spectacle musical que vous proposez, Masha, au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, du 27 septembre au 13 octobre. Alors, Lewis versus Alice, et non pas l'inverse, n'est-ce pas?
Versus, pour moi, c'est du côté d'eux plutôt que contre. Hein, ça a les deux sens.
Non, mais je veux dire, ça aurait pu s'appeler Alice versus Lewis.
Oui, c'est réversible.
Ok, d'accord. Quelle est la nature du conflit qui oppose le créateur et sa créature, c'est-à-dire Lewis Carroll et sa petite Alice? Et
précisément, c'est que ça n'est pas un conflit, que l'un enferme l'autre, et que s'il y a une démonstration comme ça, très, très en creux dans le spectacle, c'est qu'après tout, il y a des êtres comme Lewis Carroll qui sont des êtres, bien que fabriqués comme ils sont, conservent en eux le regard d'une petite fille. Ils sont eux-mêmes une petite fille. Donc c'est une équivalence. Il était logicien, donc c'est une équivalence. Lewis, c'est Alice. Alice, c'est Lewis. Et ils sont l'un et l'autre de chaque côté de quelque chose. C'est important, ces êtres-là qui restent, même s'ils font 1m90, restent des petites filles.
Comment est-ce que vous avez mené votre enquête sur Lewis Carroll? Uniquement en vous replongeant dans l'œuvre ou...
Mais pas seulement, en fait. Oui, bien sûr, la première chose, c'est de lire. Mais alors, il a beaucoup écrit, notamment le journal et des magazines et des tas de choses. Et j'ai vraiment fait l'impasse sur les nombreux livres de mathématiques et de logique, parce que je suis absolument incapable, dans l'incapacité totale, de lire ça. Et même, à peine ouvert, je les referme. Mais j'ai aussi lu beaucoup de biographies, de façon... comment cet homme a été approché. C'est toujours très intéressant, en fait. Et comment il a été simplifié, et comment il a été abîmé. Et c'est un personnage qui, malgré tout... résiste à ça, parce que c'est un poète un peu... Sa fragilité et son obstination, son excentricité le sauvent de tout.
Je ne sais pas si on peut vous résumer à ça, Masha Mokeyev, mais la plupart de vos travaux, avec les Deschamps, les Deschiens ou en votre nom propre, dénotent un refus marqué de l'esprit de sérieux, qui est pourtant parfois la marque du théâtre subventionné, n'est-ce pas? Je voudrais savoir quel regard portent vos confrères sur vous?
Alors ça, je sais pas, il faudrait leur demander, mais je sais pas du tout, mais l'esprit de sérieux, c'est vraiment pour moi une forme de renoncement, et c'est une forme de, aussi d'une forme d'arrogance peut-être, parce que comment on peut envisager le monde sans avoir un peu d'humour, c'est-à-dire ce regard décalé? Et Lewis Carroll qui aborde des sujets très difficiles, hein, dans son côté féeristique, il y a quand même la grande inquiétude de l'enfance, de la métamorphose, de l'incertitude du monde. Il décale tout le temps et il joue avec les mots, et les mots, c'est plus des sons que du sens, et sans arrêt il a ce regard amusé sur la condition des enfants, notamment, qui était à l'époque victorienne, on le sait, une condition effroyable.
Il faisait partie d'une fratrie, mais vous appris de 11 enfants.
Oui, c'était le numéro 3, lui.
Numéro 3.
Oui, le numéro 3 de 11. Et ça, c'est une chose qui m'a... Enfin, qui est dans le spectacle aussi, cette espèce de comptabilité des destins dans une vie. Pourquoi on tombe dans cette famille-là et à cet endroit-là, à ce moment-là? Et la terreur de la métamorphose de la mère dans les grandes fratries. Cette mère qui s'éloigne et qui fabrique des nourrissons que lui dit vouloir jeter au feu.
Et si on voit aussi dans le spectacle une forme d'éloge, d'éloge de la saine folie enfantine, en fait. Je sais que tout ça est un peu bizarre mis comme ça, mais c'est qu'on a soi-même pas bien grandi ou on voit assez juste, finalement?
Je crois que c'est un point de vue absolument privilégié. C'est-à-dire qu'il fait dire à... On dit à Alice, il fallait vous arrêter à 7 ans. 7 ans et demi, c'est déjà trop tard. Et cette espèce de fatalité, c'est-à-dire... Il raconte l'anxiété de l'enfance qui consiste à cette lente et inéluctable métamorphose de soi-même, et pour aller vers où? Vers un continent qui est celui des adultes, avec leurs règles, leurs règlements, leur absurdité, leur cruauté aussi. Donc voilà, c'est cette incertitude du monde aussi, et probablement aussi la perte de l'innocence un peu trop tôt, face à la cruauté, face à des choses très dur. Cette blessure d'enfance, c'est comme une initiation, en fait. Et c'est quelque chose qui va toute sa vie l'obliger, et il le fera très volontiers, à regarder Hauteur d'enfant. Il n'a que des amis enfants. Mmh. Il écrit des milliers de lettres à des amis enfants. À partir de 12 ans, c'est... Non, vraiment, on bascule trop. Il faut savoir qu'à 12 ans, on commençait déjà à voir des... On vous demandait en mariage à 12 ans, et on vous mettait de côté jusqu'à 16-17, mais on jetait son dévolu sur une petite fille de 11 ou 12 ans dans la bonne société victorienne. Donc à partir de là, lui, il n'est plus dans ce rapport-là au monde. Mmh.
C'est... Sur scène, pour jouer Lewis versus Alice, sept personnages qui chantent, dansent, racontent, se disputent, prennent le thé dans cet univers carolien fait de non-sens, d'absurde et d'excentricité. Comment s'y prend-on pour ramener à la réalité d'une scène de théâtre un univers aussi radicalement onirique ?
Alors, c'est vrai que traduire le rêve au théâtre, ça m'intéressait beaucoup déjà avec Bulgakov, puisqu'il y avait 8 songes dans la fuite. Et là, c'est vraiment du... C'est un rêve féerique, et en même temps, c'est un univers très psychique, et en même temps, c'est presque une suite de cauchemars. Et les choses restent en suspension, et ça, j'aime beaucoup qu'on ne donne pas la conclusion de l'équation. Et je pense que pour ce logicien, il y avait là aussi une forme d'humour, c'est-à-dire il trace des séquences, mais il vous donne pas de conclusion. Vraiment, les choses s'effacent, s'évanouissent. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on lit beaucoup, puis on écrit un scénario avec des choses vraiment qu'on invente, et puis des citations. Mmh. Alors les citations de, bien sûr, de l'autre côté du miroir, d'Alice au pays des merveilles, que j'ai mises en dialogue pour justement faire avancer les choses. Mais c'est beaucoup d'interrogations, en fait.
Alors, Lewis versus Alice, c'est aussi un spectacle musical sur scène avec les comédiens. Un pianiste qui donne l'impression que son instrument est devenu fou. Et Rosemary Stanley pour donner de la voix. Alors, quelle vocation, quelle fonction a pour
Rosemary Stanley?
Oui, Rosemary
Stanley de Moriarty.
Oui, elle-même, tout à fait.
Elle-même.
Quelle fonction a pour vous la musique dans ce spectacle?
Elle est essentielle parce que, justement, ce poète-là revendique vraiment que le langage, en plus c'est l'anglais, on passe de l'anglais au français avec beaucoup de facilité. Et c'est très musical. Déjà, la langue, c'est déjà des sons. Mmh. Et on a Clément Griffaut, qui est un jeune pianiste absolument magnifique, avec Rosemary Stanley, sa voix, mais il y a aussi la voix de chacun de mes acteurs. Jeffrey Carré, Geoffroy Rondeau, Caroline Espargilia, Vanessa Fonté, Yann Peters. Et ils sont tous à un endroit très précis de faire entendre quelque chose. Et la musicalité, c'est l'objet lui-même. C'est-à-dire que c'est un objet carolien, le spectacle. Mmh. Donc, il ne faut pas s'attendre à une logique très grande, même s'il y a un fil rouge qui est la biographie de l'auteur. Et puis, on est aussi dans l'onirisme, parce qu'il y a les lumières de Jean Bellorini. Donc, vraiment, ça aussi, ça prend la parole. Mmh. Et le son est évidemment très, très important. C'est Sébastien Trouvé qui a fait le son avec la musique. Ils sont très bien entendus avec Clément. Et donc, tout est musical. Tout.
Lewis Carroll est quintessentiellement anglais, ou s'est opéré le croisement avec vous qui êtes quintessentiellement slave, et j'avais fait le pari de dire 3 fois quintessentiellement sans me planter.
C'est fait. Alors, c'est le hasard, en fait, et hasard objectif un peu surréaliste, où j'avais dit je vais monter Lewis Carroll, je savais même pas pourquoi et comment, mais il y avait comme une promesse et un enjeu, et puis j'ai beaucoup travaillé, puis j'ai vu qu'après tout, il y avait plein d'accroches personnelles et dont je me doutais pas. Peut-être c'est une intuition. C'est-à-dire, ces garçons qui sont des petites filles toute leur vie et qui racontent des histoires de petites filles toute leur vie. Et loin de moi l'idée de voir en lui un prédateur, ce serait tellement bête, aplatissant et grotesque. Mmh. Voilà, c'est un rêveur. Et que ce soit les psychotiques ou que ce soit les...
Vous dites
les
ça pour dissiper toute forme de malentendu.
Oui, que ce soit clair et net une fois pour toutes. Voilà, pour qui a rencontré un prédateur dans sa vie de petite fille et qui... Puisqu'il y en a une petite fille, le malheur de rencontrer ce genre de personnage, on sait qu'il ne se présente pas comme ça. Donc, que ce soit les psychotiques, les demi-fous, ceux qui parlent tout seuls, comme Lewis Carroll lui-même, voilà, on a besoin de ces poètes-là, on a besoin de ces êtres-là, même quand ils n'écrivent pas. Et ils ont un regard sur le monde qui me touche définitivement. Puis les accroches personnelles, c'est la très grande fratrie, moi je suis numéro 6. Et puis une éducation biblique, très, très religieuse, très un peu stricte, qu'on a transgressée bien sûr,
avec plaisir.
Vaillamment. Mais beaucoup de choses de cet ordre-là. Et puis bien sûr aussi ce point de vue de l'enfance qui ne s'efface jamais. Parce que on pense que le temps c'est un vecteur, pas du tout, c'est un empilement. Et l'enfance est toujours là. Et si on veut être absolument sincère avec soi, elle est toujours là.
Nous sommes quelques générations à avoir grandi avec une version disneyenne d'Alice, qui est assez loin de ce qui nous est donné à voir hein, dans Lewis versus Alice, et c'est pas plus mal. Quelle est selon vous la plus grosse erreur de compréhension faite à son sujet ?
C'est de raconter un rêve un peu pour petite fille, un peu sage comme ça, et de faire entendre les nœuds dans les cheveux et quelque chose qui serait un ordre du monde, alors que ce que propose Alice, c'est de voir que le monde est dans un absolu désordre et que l'incertitude règne partout. Que la forêt, c'est la forêt sans nom et qu'on peut perdre son identité, qu'on est tout le temps à la recherche de soi-même. Qu'est-ce que c'est qu'être une petite fille, sinon cet état provisoire? Et puis, oui, en fait, il y a une insolence à être un enfant. Et donc, il ne faut jamais cesser de l'être, d'une certaine façon. Donc, cet univers féeristique, comme il décrit, c'est du fantastique très inquiétant. On est quelquefois très proche de la nuit du chasseur. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on regarde les enfants comme ça? Pourquoi quand on est enfant, on est regardé? Pourquoi on s'adresse à nous de cette façon-là? Qu'est-ce que ça renferme? Et il y a dans le discours des adultes quelque chose d'une vaste méprise. On est trahi quand on est enfant. Et c'est ça que nous raconte Lewis Carroll. Alors il le fait avec humour, il le fait avec fantaisie, il le fait avec excentricité. Nous, avec beaucoup de musique, de danse et d'images et une part plastique du théâtre qui m'importe beaucoup. Mais c'est assez grave tout ça.
Macha Makayev, par contre, une petite pause dans cette conversation si vous voulez bien. Et puisque vous savez tout faire, est-ce que vous savez faire ça?
Non.
Ah, carrément non. C'est même pas, je vais essayer.
Je sais même pas. Non, parce que nous, sur le plateau, on le fait pour de vrai. On ouvre des vraies bouteilles avec de vrais bouchons.
D'accord. Bon, faisons quand même les pop news.
Un bébé hypnotisé par une chaîne d'infos qu'il regarde depuis son petit transat et ce son. Puis un travelling et un gros plan sur le visage du dit bébé, c'est l'étrange teaser de Servant, une série produite et imaginée par M. Night Shyamalan, celui de Sixième Sens hein, évidemment. De l'étrange dans le quotidien, The Servant, ce sera bientôt sur Apple TV.
Une nouvelle bande-annonce pour le très attendu The Irishman, le film de Martin Scorsese réunissant De Niro, Pacino, Keitel et Pesci, le tout pour relater la vie de Frank The Irishman, Sheeran, soupçonné d'avoir fait disparaître le dirigeant syndicaliste Jimmy Hoffa.
A friend of ours is having a little trouble. A friend at the top. Back then, there was nobody in this country who didn't know who Jimmy Hoffa was.
Always charge a guy with a gun. With a knife, you run away. So you charge with a gun, with a knife, you run.
The Irishman sera en ligne le 27 novembre sur Netflix, mais avant ça, tadam, le 17 octobre, Martin Scorsese sera à la Cinémathèque française pour présenter le film à vie à tous les affranchis.
La reprise du jour, c'est à Nick Cave qu'on la doit. L'Australien à voix de basson a rendu hommage au génial Daniel Johnston, disparu il y a quelques jours en reprenant son Devil Town.
I was living in the Devil Town. Don't know it was a Devil Town.
Nick Cave reprenant Daniel Johnston, c'est bien pour patienter avant la sortie de Ghost In, double album de Nick Cave qui sortira le 30 septembre.
France Inter. Popopa. Antoine Decaune.
Et Charlie Noel.
Nick Cave, le sosie vocal français de Nick Cave.
Ouais. Et nous sommes toujours en compagnie de Macha Makayev pour parler de Lewis versus Alice, la pièce de théâtre qu'elle a montée, qu'on peut voir actuellement au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, et cela jusqu'au 13 octobre. Alors Macha, le Alice de Lewis Carroll, c'est vraiment du pain béni pour vous. C'est vous qui dites être resté bloqué dans l'enfance, ajoutant, je vous cite, « La fiction m'a permis de ne pas sombrer dans la psychose ».
Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Et très tôt, dans une psychose enfantine. Et puis plus tard aussi, dans des détresses psychiques. Mmh. Je crois que c'est la meilleure réponse. C'est-à-dire, Lewis Carroll, il a un surnaturel immense. C'est pas du tout ce qu'on croit, le surnaturel d'un homme victorien. C'est pas un religieux comme ça, qui a une verticalité une fois pour toutes. Dans son surnaturel à lui, ça va de des, on trouve des fées, des elfes, des ectoplasmes, il fait tourner les tables.
Oui, c'est ça,
bien sûr, il y a des fantasmagories bibliques, mais ça va, c'est énorme. Lui croit vraiment voir courir une fée sur la table.
Mais c'est une fée qui court sur la table,
mais
machin.
Bien sûr.
Et non, c'est moi, j'ai rien d'une fée. Pardon.
Et quand c'est un immense photographe, c'est un des premiers photographes. Et quand il tire sur ses plats, qu'il pense qu'il attrape un peu de l'âme. Mmh. Il est encore dans cette espèce de fébrilité de sentir le monde surnaturel à chaque instant de sa vie. Mmh. De ce point de vue-là, je suis très proche de lui parce que bon, moi je sens beaucoup ces choses-là au travers des objets, des choses, des animaux qui sont là et plus là. Mais ce surnaturel, j'allais dire tactile, oui, je le partage beaucoup avec lui. Et ça nous permet justement, précisément, d'être en étant un peu à côté de la réalité, et en faisant quelque chose d'autre de la réalité que la simple réalité, on devient moins fou.
Vous assurez l'adaptation et la mise en scène de la pièce, mais aussi, évidemment, les costumes et les décors. Est-ce que vous incluez cette seconde partie dans la première? Est-ce que c'est indissociable?
Vous avez absolument raison, c'est ça. C'est pour moi la seule et même écriture depuis toujours. Je ne peux pas imaginer faire du théâtre ou inventer un spectacle sans penser où et comment et avec quoi. Et donc, c'est une grande préméditation et je suis toujours une grande émotion quand on arrive et que les acteurs envahissent l'endroit dans lequel ils vont jouer, leur réaction à un objet, à un espace, à un étage. Ils sont comme désorientés. Et là, déjà, quelque chose... Voilà, on a déjà les secrets du spectacle. Cette part plastique du théâtre, oui, parce que pour ceux que le discours... le discours échappe, qui ne comprendraient pas notre langue ou qui sont fermés à ça, le théâtre doit aussi être généreux et exprimer, voilà. Donc.
C'est un spectacle très inquiétant quand on en parle comme ça, quand on parle de cette Alice, de l'autre côté du miroir, de toutes les fantasmagories, ces personnages étranges, ce non-sens. Est-ce que c'est un spectacle qui plaît aussi aux enfants?
Oui, moi je crois que les enfants aiment les choses qui ont à voir avec une intelligence plastique. Ils entrent tout de suite de plein pied quand on leur raconte pas des platitudes. Donc quand on ne leur dit pas tout non plus, parce qu'ils ont un imaginaire qui fonctionne immédiatement. Donc de ce point de vue-là, Lewis Carroll propose beaucoup. Et ce spectacle, on joue beaucoup, bien sûr, avec les doubles. C'était un bonheur, Twin Peaks, évidemment, mais on a ce côté-là. Et sans arrêt, bon, déjà, il y a deux Alice, et puis il y a Lewis et Charles, parce que Lewis Carroll, avant de s'appeler Lewis Carroll, s'appelait Charles Lovitch Dodgson. Et de lui-même, pendant sa vie, il voit grandir le mythe Lewis Carroll, et au bout d'un moment, il le refuse. Il dit non, moi je suis Charles, je ne suis pas Lewis. Donc sans arrêt, il y a ce tiraillement entre deux choses, et il nous dit, vous êtes où, vous, entre les deux choses? Qu'est-ce que vous voyez des deux? Est-ce que vous voyez bien? Et évidemment, sur le plateau, il y a des miroirs.
Et votre rencontre avec Lewis Carroll, elle remonte à quand? Vous vous souvenez de l'état dans lequel ça vous a laissé?
J'étais pas
première
petite
lecture.
Fille. J'étais pas petite fille. Je devais avoir 11 ou 12 ans et je l'ai trouvé assez antipathique. Le livre lui-même, je l'aimais pas beaucoup. J'aimais pas les illustrations de Téniel. J'aimais pas beaucoup cette petite fille que je trouvais, oui, presque antipathique. Et c'est très bien de commencer par une antipathie. C'est très bien parce qu'après, forcément, on n'est pas indifférent. On tourne autour et tôt ou tard, on y entre.
Bon, Macha Makaïev, nous ne pouvions pas vous recevoir sans faire appel, et ce sera là une autre forme d'hommage, au des chiens, ici dans une pastille intitulée Chirac à l'île Maurice, puisque en 2000, le président avait préféré y établir résidence estivale plutôt qu'à Brégançon.
Vous avez vu, Chirac, ça l'a rendu complètement fou, hein, cette histoire. Oh, bah, tout ce qui a été relaté dans les journaux, quand il est allé passer toutes ses vacances sur Maurice.
Quoi? Où?
Il a pas.
Quoi ça?
Là, dernièrement.
Bon.
Vous êtes pas au courant?
Bon.
Mais si, alors là, il y a eu même. Il faut pas aller voir toutes les.
Monsieur Chirac!
Mais monsieur Chirac,
Monsieur Chirac, pas monsieur Chirac!
Mais si!
Oh!
Oui, parce qu'il était passé de Réunion. Il est passé de là. Il était à un moment donné à l'arrêt de Réunion. Il est passé directement, passé toutes ses vacances sur Maurice.
Oh.
Dans un palace.
C'est les chansonniers qui racontent ça.
Mais non.
Vous croyez tout ce qu'on vous raconte?
Vous croyez tout ce qu'on vous raconte, les des chiens et Chirac à l'île Maurice, c'était...
Sur Maurice,
excusez-moi, bien sûr. Qu'est-ce que vous gardez brièvement de ces années Chirac, la période 95 à 2007?
ce que je garde de ces années-là, ont beaucoup de choses. Moi, je garde justement les des chiens, où on s'amusait beaucoup, et une forme d'insolence et de liberté. Et, bon, écoutez, aujourd'hui, on va pas faire une analyse politique, et ça serait de mauvais
goût. C'est pas le jour.
C'est pas le jour du tout. Non, je vous dis, quand je pense à Chirac, aujourd'hui, je pense au musée du Quai Branly. Mmh. Voilà, un endroit magnifique.
Magique, oui.
Ah oui, on a joué d'ailleurs, on a joué Les âmes offensées avec Philippe Gélin sur l'ethnographie. Mmh. Et j'aime beaucoup parce que je n'y comprends rien. Et j'aime les musées où on ne comprend rien, je ne fais que ressentir. Avec des, voilà, et ça c'est un état de suspension formidable. Mais en même temps, si on réfléchit, enfin on travaille un peu, on se rend compte que ces peuples dits premiers... nous ont précédés et probablement nous survivrons.
Oui, absolument. Merci, Macha Makeyev. On approche de la fin de l'émission, l'heure de passer un dernier disque et hop, hein, je propose une petite curiosité, Macha, la version de Wall Outta Love de Led Zeppelin par Tina Turner.
Wow.
Ta love de Led Zeppelin, quoi j'essaye.
Bah, vous limitez pas bien, mais du tout, hein,
version,
du tout.
Version Tina Turner, c'est curieux, c'est étonnant, mais c'est pop, et c'était donc dans Pop Pop Pop. Voilà, merci Macha Makeyev.
Merci à vous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Lewis versus Alice, c'est au théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis du 27 septembre au 13 octobre. Et c'est évidemment chaudement recommandé par Pop Pop Pop. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Elisabeth Collet, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet et Simon Arresta, nos attachés de production, je dis n'importe quoi.
Arrestat,
à la programmation musicale de Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, Neil Hannon de The Diva. Une comédie. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr ou plutôt, comme disent les Jones 3.0 sur YouTube. Comment ils disent ?
Abonnez-vous à notre podcast.
Merci Charline. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter.